of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine nous analysons, décortiquons, encensons ou démolissons les shows de la WWE. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, préparez la trousse à pharmacie, c'est la baston du mercredi AEW versus NXT du 13 janvier 2021 pour le 438e NXT et le 68e AEW Dynamite. Je suis votre dinosaure que dit, je suis votre Lutinosaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette baston, on a décidé de faire, l'extrême des générations, puisque d'un côté vous allez avoir votre vieillard, votre tonton Chris, mais de l'autre côté vous allez avoir la puissance de la jeunesse avec le bon Rafa, give me a hell, yeah! Salut Rafa!
Yeah, salut tonton Chris, et ben ouais, tu vois, moi je suis comme ça, baston du mercredi, j'y suis pas, un jour je viens quand vous êtes deux, et ben la semaine d'après j'ai déjà viré le papy à grand
coup de tatane,
je lui ai dévissé ses petits trous, et puis hop, il est parti dans le décor, et me voilà place nette, on n'est plus que deux, on va pouvoir parler des choses sérieuses.
Voilà, à un moment plus que tu me casses la gueule à moi derrière.
Ah non, bientôt, parce que
tu vas la présenter toute seule cette affaire.
C'est moins drôle en solo, hein.
Ça. Alors, on va rappeler un peu, on va remettre dans le contexte.
Oui.
La semaine dernière, on s'était retrouvé pour une baston avec en trios avec le papy. C'est NXT qui avait remporté la baston du mercredi de la semaine dernière. On en est à la hashtag 18e édition de notre baston du mercredi. Donc, pour la saison 2, NXT mène 1-0, mais on est par contre sur une égalité parfaite sur l'ensemble des saisons, puisqu'on est à 7 victoires pour la AEW, 7 victoires pour NXT et 3 matchs nuls. Donc là, mon bon Rafa, on ne peut pas faire plus équilibré, non?
Ah ben là, c'est, on entre dans une nouvelle ère. Là. C'est la... Ce soir, ça va être déterminant, hein. Sauf si ça refait égalité, mais en tout cas, voilà, là, ça va basculer d'un côté comme de l'autre.
Eh ouais, parce que si on vous pète un match nul à nouveau, ah, pourquoi pas, mais on va en parler tout de suite. Alors, je te propose, en général, on commence avec le vaincu de la semaine passée. Donc, cette semaine, on va commencer par Dynamite, qui
allez,
nous offrait donc le New Year's Match nuit 2 de la Elite Wrestling. Le show va commencer par une petite récap de la rivalité qu'il y a entre Pac, ex-Neville à la WWE, qui est de retour, et face à Eddie Kingston, qui vont s'affronter dans le premier match de la soirée. Donc, on attaque d'entrée avec un Pac versus Eddie Kingston, qui sont bien évidemment accompagnés, hein, parce que, comme souvent à All Elite Wrestling, il y a souvent beaucoup de monde ringside, et en l'occurrence, ben, Pac, il va être accompagné par les Lucha Brothers, Penta, El Zero Miedo et Rey Fénix, tandis que Eddie Kingston, de son côté, ben, lui, comme d'habitude, dorénavant, est accompagné par The Blade, The Bunny and The Butcher. Avoir un match de presque 10 minutes, 9 minutes 37, un opener, j'ai envie de dire, très classique de la Elite Wrestling. C'était pas un tag team match, mais comme il y avait beaucoup de monde, du coup, il y avait beaucoup de bordel tout autour du ring. Alors là, on a vraiment une opposition de style, hein. Tu vas dire, Raphaël, un peu ce que t'en penses, quoi, parce qu'on a un mec hyper athlétique, hyper voltigeur et dans une shape éblouissante, comme j'ai envie de dire tout le temps, en l'occurrence, Pac. Et de l'autre côté, on a le fat Eddie Kingston, voilà, avec son gros bide. Ce gars a oublié d'acheter des muscles quand il s'est mis au catch. Apparemment, c'est assez étrange d'ailleurs. Mais bon, par contre, ce gars, il a une très grande bouche. Et voilà, c'est un habitué des grosses et des longues promos à la Elite Wrestling. Il est rentré en feud avec Pac pour des raisons un petit peu obscures. Je crois que c'est surtout la première des raisons, c'est qu'ils ont tout simplement envie de bagarre et ils vont s'en mettre à cœur joie pendant ces 10 minutes. D'ailleurs, je vais pas tout vous raconter parce que là, vous savez, hein, sur la baston du mercredi, faire le play-by-play sur les deux shows, c'est très très long et très fastidieux. Donc, je vais plutôt vous enchaîner un peu sur les trucs, les faits marquants. Voilà, les deux lutteurs vont se retrouver un peu sur les poteaux après plusieurs interactions avec les quatre tout autour. Pac, il va tenter une superplex qui va pas passer. Kingston, lui, il va répondre, lui, c'est un brawler, hein, Kingston, hein, c'est absolument pas un technicien, hein, c'est un gros brawler. Donc, lui, il se bat à base de droite. Pac va quand même réussir à porter une prise, va réussir à passer sa superplex, mais va n'obtenir qu'un compte de 2. Derrière, il va enchaîner avec un kick au visage, un uppercut. Kingston, là, il commence à aller vraiment de moins en moins bien. Il va réussir à sortir encore une fois sur un near-fall d'une grosse clothesline de Pac. Mais Pac va continuer à prendre l'avantage. Il va coller son dropkick, va venir prendre de la hauteur pour placer sa Black Arrow qui va lui donner la victoire. Bim, bam, boum, victoire de Pac. C'est pas fini parce que post-match, Pac, il est toujours pas content. Il va porter son Brutalizer sur le Eddie Kingston. Là-dessus, Butcher and the Blade, ils vont débarquer. Ils vont vouloir s'en prendre à l'anglais, mais bien évidemment, les Lucha Brothers qui sont toujours autour du ring, ils vont venir direct les calmer. Là-dessus, une musique va se déclencher. C'est la musique d'un de nos gros monstres, d'un de nos gros Golgoth de la Old Wrestling, en l'occurrence Lance Archer, qui va débarquer fissa. Il va venir faire quitter le ring. Voilà, il va faire un clean house en fait, en faisant quitter le ring à Butcher and the Blade. Et derrière, il va se mettre direct. Alors là, ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Il va se mettre direct face à Pac. Alors Pac, quand même, pour vous rappeler, si vous vous rappelez de Neville un peu, c'est pas un type qui est très très grand, hein, qui est très athlétique, mais pas très grand. Donc du coup, là, il y a un vrai gros déficit de taille entre les deux. Et Archer vraiment va vraiment se positionner en défi face à Pac. Et le segment va se terminer ainsi. Alors, mon Raphaël, je sais pas si c'était la première fois pour toi que tu voyais Pac à la Holy Wrestling. C'était peut-être la première fois ou deuxième fois que tu voyais Eddie Kingston. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener de Dynamite ?
Eh bien, écoute, là, là, ça me fait plaisir, honnêtement, parce que Pac, du temps où il s'appelait Neville, pour moi, ça avait été un très bon catcheur de la WWE qui nous a offert ce qui, à mes yeux, a été la meilleure feud de la ceinture Cruiserweight quand il lui avait donné en pâture le fameux Austin Aries. Et donc, je suis très content de le revoir dans une très belle forme. Là, pour le coup, ça me semble être typiquement voilà, le produit qui n'a pas passé à la WWE, mais qui peut devenir un vrai diamant à la All Elite. Et je l'ai trouvé effectivement très affûté. Bon, il est toujours effectivement... Lui, il doit manger que des graines et de l'eau, hein, parce qu'effectivement, il n'a pas... c'est un vrai maître d'armes. En plus, à la WWE, je pense que c'est quelque chose qui l'a handicapé d'être, d'être vilain. Il faut dire ce qu'il est. Il a quand même une gueule un peu de gnome. Il n'est pas très beau. Mais... parce qu'ils avaient voulu en faire un peu un babyface là à l'époque de la NXT et tout ça, mais là il est ce attends, comment il appelle, Dark Pack, non, le Bastard, ouais, le Bastard,
le Bastard, ouais,
ouais, c'est pas mal. Donc franchement, moi j'étais assez enthousiaste et j'ai bien aimé. Alors c'est drôle ce que tu as dit, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'avais déjà vu Eddie Kingston à la All Elite, je sais plus, peut-être le soir où il avait débarqué avec Taz, et alors je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était un gros costaud, justement, c'était un peu je le voyais un peu comme un mec de AOP, là où, bon, peut-être pas aussi baraque, mais dans ma tête, il était assez... Et en fait, non, il n'est pas baraque du tout, oui, il est même
non,
pas...
Non, non, non.
Et alors, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez déjà fait la comparaison, mais moi, je trouve qu'il a la gueule des frères Raptou dans Picsou.
c'est pas faux.
Mais lui, le bandeau, là, noir sur les yeux, là, le masque des bandits, on dirait un des frères Raptou. Et mais voilà, donc c'est surtout Pac qui m'a intéressé, et j'ai bien aimé de voir sortir. Alors, j'ai pas... Comme tu le sais, voilà, AEW, je ne suis pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi Lance Archer était un peu à l'arrêt ces dernières semaines. Mais là, voilà, là, il y a eu un opener où je me suis dit, tiens, je regarderai bien encore ce que devient Pac dans cette fédération, parce que ça m'a donné envie. Ouais.
Ouais, pour moi, c'était un match avec une grosse opposition de style, là, vraiment. Et bon, moi, je ne fais pas partie des fans de Eddie Kingston, mais je lui reconnais, vraiment, dans le ring, moi, je le trouve très faible. Mais je reconnais que, par contre, c'est un mec qui s'est bien adapté, parce que je pense qu'il sait qu'il n'est pas très, très fort dans le ring. Donc, il a adapté son style. C'est un brawler. Et comme il est très bon au micro, du coup, il compense pas mal. Moi, je t'avouerais que ce qui m'a surpris vraiment dans le segment, c'est la présence d'Archer, et que Archer se soit finalement pas attaqué à Eddie Kingston, mais que ce soit bien à Pac qui soit plus attaqué. Et alors là, du coup, on parlait d'opposition de style, mais alors là, entre Archer et Pac, ça nous promet un match ou une rivalité assez incroyable, parce que vraiment, les deux mecs sont totalement différents. Et alors moi, Archer, pour te situer, moi, Archer, il fait partie un peu de mes chouchous à la All Elite Wrestling.
Ouais, c'est un mec qui compris, est, ça.
Voilà, un mec que j'espère voir beaucoup, beaucoup plus haut dans la carte à l'avenir. Mais je pense qu'il a encore le temps, parce que c'est un type qui est encore assez jeune. Et depuis qu'il est managé par Jack the Snake, c'est plutôt pas mal, mais il a vraiment très peu de matchs. Donc, il catch très, très, très peu. Donc, du coup, je suis plutôt content de le voir se lancer en rivalité face à Pac. Ça l'annonce de retour dans le ring. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, sans transition, on va passer au deuxième match de la soirée qui va voir s'opposer Chuck Taylor des Best Friends, qui est accompagné de Orange Cassidy. Trent est blessé actuellement, donc c'est pour ça que Trent était absent. Et de l'autre côté, on va avoir son adversaire, c'est ni plus ni moins que Miro, le Bulgare, le best man, qui va affronter, qui est accompagné, pardon, avec Kip Sabian et Penelope Ford. Miro, voilà, ex-Rousseff hein, à la WWE, pour coller à tout le monde. Alors évidemment, pour Taylor, c'est compliqué parce que depuis que son pote n'est plus là, il est quand même assez triste et c'est un petit peu compliqué pour lui. On va avoir un match très très court, puisqu'on va avoir un match de 3 minutes 26. Il va y avoir évidemment un tout début de match qui va être un peu à l'avantage du face, qui va réussir un peu à s'en sortir au départ. Mais après, derrière, il va être littéralement, on va dire, les 30 premières secondes vont être pour Chuck Taylor. Et les 3 minutes qui vont suivre derrière, ça va être un balayage absolu de Miro sur Chuck Taylor. Miro, il va enchaîner, il va balancer son mule-kick, son coup de genou à la mâchoire. Il va nous passer un Samoan drop, une leg lariat. Des choses qu'on ne le voyait pas faire à la WWE, un stomp, un surf stick, et derrière, son game over, qui est en fait son ancienne accolade, pour une victoire facile et tranquille du Miro. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mon Rafa, quelle impression ça t'a donné, là, le Miro, là, pour un squash match, quasiment
hein. Ouais, mais c'est ça, un peu déçu quand même, parce que bon, il a pas eu grande opposition, et ça a été très court, comme tu l'as dit. J'ai pas vu. Oui, t'as cité 2-3 prises. C'est vrai que quand il a fait le Samoan Drop, je me suis dit, tiens, il faisait ça avant. Et effectivement,
non.
Il ne savait pas qu'il faisait ça. Par contre, c'est vrai que, il n'y a pas eu d'opposition. Donc, il a fait, un kick, un super kick, la collade, le camel clutch. Et ça m'a presque déçu. Alors, il vient juste d'arriver, mais je me suis dit, ça serait bien qu'il trouve un peu un autre finisher, quoi, qui change.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Donc, ça va peut-être venir. Il a l'air motivé, hein. Peut-être un poil trop, hein. Je sais pas si j'ai. Là, il a eu des mimiques, tu sais, de. Genre, il ouvre grand les yeux, là, il écarquille comme s'il était un gros Godzilla ou je sais pas quoi. Il en fait peut-être beaucoup dans l'acting. Il a l'air d'espérer, je pense, de haute destinée dans cette fédération et je lui souhaite. Mais là, ça restait quand même très très soft niveau catch et niveau intérêt tout court. Alors voilà, après, l'histoire du coup, c'est qu'il récupère le Chuck Taylor pour être un peu son larbin jusqu'au mariage. Ça promet plutôt du comedy wrestling, j'imagine, et je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant, mais bon.
Ouais, il est complètement là-dedans hein, depuis qu'il est arrivé, hein, de toute manière. Hein. Pour l'instant, il a pas quitté la mid-card. Il n'a pas été lancé dans aucun titre, ni le titre intermédiaire, ni le titre suprême, de toute façon. Il est vraiment dans la mid-card. Il est, comme on l'a dit la semaine dernière, encore dans une feud de mariage.
Ouais.
Donc, écoute, on va voir la suite pour lui. Moi, ma bonne surprise en fait du jour, ça a été qu'il ait diversifié son moveset. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Mais comme toi, je regrette qu'il ait gardé ce finisher. J'aurais voulu qu'il fasse autre chose. Alors, peut-être que justement, là, tout ce qu'il a montré pendant ces 3 minutes, c'est peut-être effectivement une promesse qui va peut-être se trouver un nouveau finisher, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça manque et c'est un petit peu dommageable. Mais enfin bon. Allez, on quitte Miro. On va retrouver en coulisses vite fait les Private Party et Matt Hardy en coulisses. Donc les Private Party, c'est une jeune équipe qui en veut, hein, encadrée par le vétéran Matt Hardy. Ils sont en interview avec Dasha Fuentes, qui est l'intervieweuse attitrée de la All Elite Wrestling. Elle veut savoir plus ou moins ce que va apporter Hardy en tant que manager. Lui, il leur dit que c'est génial. Il les coupe un peu au départ. Hein. Il prend direct la parole. Il explique qu'ils sont dans le show business, qu'il faut avoir un mec aussi expérimenté que lui. Ça peut être qu'un plus pour les private parties. Du coup, les deux jeunes, ils reconnaissent quoi. Hein. Ils disent que Matt, c'est une légende, c'est une icône, qui va évidemment beaucoup leur apprendre. Là-dessus, le problème en fait, c'est l'argent, puisque les private parties, ils trouvent que quand même une commission de 30%, ça fait beaucoup sur leurs revenus. Et lui, il leur dit, les gars, il fallait mieux lire le contrat. Alors, tu vois, les jeunes, ça lit pas bien les contrats, Rafa.
Ouais. Je suis un peu surpris là. Que Matt Hardy à 45 ans passé, il se relance dans une nouvelle gimmick de manager, j'imagine qu'il catchera plus ou plus trop. Je ne sais pas s'il a annoncé vraiment sa retraite des rings.
Non, il ne l'a pas vraiment annoncé pour l'instant. Mais par contre, il a complètement changé sa gimmick là, depuis plusieurs semaines.
Ouais.
Et j'ai bien l'impression que ça va. Et puis tu sais, il a eu encore des grosses blessures quoi l'an passé. Ouais. Donc je pense qu'il est vraiment complètement fracassé. Donc je pense que c'est quand même pas forcément une mauvaise chose qu'il arrête d'être entre les cordes le matardien.
Ah ça c'est sûr. Mais alors peut-être que son broken, woken, tout ce qu'on veut, universe, c'était pas trop facile à gérer. Mais tu vois là, je me suis dit bon. Il joue le rôle d'un manager un peu connard, visiblement, avec ses protégés. On va voir. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais je me suis dit que ce n'est pas forcément l'endroit où j'avais envie de voir Matardi apporter quelque chose en plus. Mais bon, voilà. À voir.
À suivre. De toute façon, on dit Matardi va pas arrêter de catcher de toute manière, puisqu'il est de toute manière déjà annoncé sur la carte de la semaine prochaine pour un tag team match avec les private parties. Donc,
ils sont dans les trois.
Voilà, il n'en a pas fini. Mais quand il catch à la Holy Wrestling, il est quand même beaucoup protégé là, ces derniers mois. Et c'est vraiment les private parties qui font tout le taf hein, quand même.
Ouais.
Il faut bien le reconnaître. Quoi. Allez, on retourne sur le ring où on a l'Inner Circle, quoi, donc le clan de Jericho, qui est présent et qui avait annoncé la semaine dernière qu'ils allaient venir présenter leur résolution de l'année 2021. Donc, on a tout le monde qui est là, hein, Ortiz, Santana, Wardlow, MJF, Jack Hager. Jack Hager, d'ailleurs, qui n'aura qu'un mot à la bouche pendant... tout le segment, ça sera Championships, et voilà, qui veut remporter des titres. MJF, lui, il nous dit que voilà, que il est le meilleur homme, la meilleure personne de l'Inner Circle. Jericho, lui, de son côté, il nous fait savoir que son objectif cette année, c'est de remporter le titre tag avec MJF. Là-dessus, Ortiz et Santana, ils sont pas trop contents parce que c'est quand même l'équipe attitrée de l'Inner Circle. Et ils disent que, mais c'est quoi cette idée-là? Pourquoi tu viens nous concurrencer sur notre terrain? Là-dessus, c'est Sammy Guevara qui va choper le micro, que j'avais oublié, le jeune, là, d'ailleurs, qui dit que lui aussi, pour lui, c'est l'occasion aussi d'y aller dans la division par équipe et qu'il ferait bien équipe avec Jack Hager. Il va même trouver un nom dans la foulée, puisqu'il va les appeler les Sammy Hager. Jericho, il dit que c'est pas terrible. Et là-dessus, en fait, on se retrouve avec une espèce de dissension au sein de l'Inner Circle. Et Jericho va proposer tout simplement d'organiser un match entre les trois tag teams de circonstances et pour la semaine prochaine. Et comme ça, on déterminera quelle est la meilleure équipe de l'Inner Circle et qui ira défendre ses chances pour le tag team championship de la All Elite Wrestling. Le segment, comme souvent avec l'Inner Circle, va se terminer avec un doigt d'honneur collectif à la caméra. Alors, Raphaël, je sais que quand même tu es un aficionado de Chris Jericho. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, de cette Inner Circle et compagnie là, que tu découvres petit à petit?
En plus, je me suis fait récemment, comme vous l'avez pu le voir sur Discord, pour je ne sais plus quelle raison, les meilleurs moments de la belle année 2017 de Chris Jericho, quand il nous faisait sa liste avec Kevin Owens et qu'il traitait tout le monde de stupide idiot, et c'était quand même vachement bien. C'est toujours un grand talent au micro, Jericho, et je l'ai trouvé très drôle là sur ce segment, puisque Sammy Guevara l'a quand même traité un peu de petite traînée de la tag team, puisqu'il fait tag team avec n'importe qui, Jericho, avec MJF, avec je sais plus avec qui d'ailleurs il a cité, avec Snoop Dogg peut-être la semaine prochaine. Jericho, il a dit ouais, peut-être, pourquoi pas. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo comme segment, je les aime bien, l'Inner Circle, on en avait parlé un peu là, après avoir été des gros main eventers, ils occupent un peu la carte plus bas. Après, je sais pas trop quoi m'attendre de ce futur match, j'ai des résolutions assez soft quand même, hein. Ils peuvent viser un peu où il n'y a que Jack Hager, comme tu dis, qui répétait comme un perroquet, mais s'ils visent juste la scène tag team, à mon avis, c'est un peu triste.
Ouais, ça va être le triple frite en lui-même devrait être plutôt sympa, mais c'est vrai que si c'était juste pour déterminer qui c'est qui serait dans la course du Tag Team Championship, c'est un petit peu léger, quoi. Ils auraient pu nous faire un truc un peu meilleur, quoi.
Ouais.
Et on retourne en coulisses, mon Rafa, on va y trouver le Dark Order qui est presque au grand complet. Ils vont nous... Alors pour eux, évidemment, c'est compliqué, hein. Ils ont perdu leur leader, Brody Lee, donc c'est un peu compliqué de se remettre dans la course. Mais depuis quelques semaines, ils sont en train d'essayer d'embrigader Hangman Page, l'alcoolique de service de la Holy Wrestling. Donc ils nous expliquent que voilà, ils vont être de meilleures personnes dorénavant. Donc d'ailleurs, je me demande même si le Dark Order est pas en train de glisser vers un clan face, et c'est assez étrange d'ailleurs. Et que dès la semaine prochaine, Hangman Page, il va tout simplement faire équipe avec eux. Après, John Silver, il va vouloir un peu interviewer Page, ils vont un peu le vanner. Ils vont lui dire qu'ils l'adorent, et qu'il faut absolument que Paige il intègre le groupe, et pourquoi pas dès la semaine prochaine après le match. Alors le Dark Order, c'est compliqué là, hein, pour ce clan là, c'est vraiment un clan qui est dans une situation très particulière. Quand t'as perdu ton leader, surtout dans les circonstances que l'on connaît, mon Rafa, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée là, d'Hangman Page là?
Non, mais après, ouais, la première histoire, c'est que t'as raison. Je sais même pas s'il y a un équivalent connu dans les principales fédérations de catch. En tout cas, il y a eu des catcheurs qui sont malheureusement, tristement, aussi décédés en pleine force de l'âge, mais ils n'étaient pas comme ça chef d'un clan. Effectivement, drôle de construction derrière, t'as raison, je sais pas, est-ce qu'on peut passer là-dessus pour faire un face turn, un changement d'alignement? Moi, j'ai encore un peu du mal, hein, je t'avoue, avec les alignements des uns et des autres, puisque je découvre notamment ce Hangman Page qui est au comptoir, là, et qui est avec sur un cheval de temps en temps, je sais plus trop d'une fois sur l'autre s'il est heel ou face, mais il a une bonne tête de, ma foi, de leader et d'icône et d'idole pour les autres, donc pourquoi pas un switch de leader, parce que bon, après les autres, je les connais pas tous trop, mais ils sont, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui puisse émerger pour devenir un nouveau leader. C'est quand même des sbires, quoi.
Ouais, à la base, c'est ça, c'est bien le problème d'ailleurs de ce clan là, hein. C'est que là, soit il va falloir qu'ils retrouvent un leader pur et dur, ou alors effectivement, ils vont continuer un peu à vivoter comme ça, à moins que Page prenne vraiment le pouvoir, parce que c'est quand même lui qui a le star power dans ce groupe là. Là, s'il les intègre, et je pense qu'il va pas tarder à intégrer le groupe, quoi qu'il en soit. Donc effectivement, c'est un peu compliqué là pour eux là. J'imagine que ça doit pas être simple, même pour les bookers de toute façon, à gérer cette affaire là. Et ouais, il faut voir sur la suite un peu. Page me paraît un peu léger en promo pour devenir un vrai leader d'un gros clan comme ça. On verra. Écoute, on verra ouais. La suite. Voilà, on va revenir vite fait. Il y aura eu un petit récap vidéo de la rivalité entre Darby Allin et Brian Cage qui vont s'affronter dans le main event. On va de nouveau avoir Dasha Fuentes qui va être en coulisses avec Kenny Omega, Don Callis et les Good Brothers. Voilà, Callis qui est le manager de Kenny Omega, qui souligne qu'actuellement ils ont toutes les ceintures, que Omega est champion et méga champion de la AAA et champion de la IW, et que d'ailleurs il lorgne sur le titre aussi de Impact Wrestling. Omega, là, il bouffe vraiment à tous les râteliers. Voilà, Omega, il lui demande si les Bucks vont venir. Lui dit que Callis, il lui dit ouais, non, mais ils ont prévu quelque chose. Voilà, c'est assez vague le truc. Et du coup, on nous avait annoncé une arrivée de The Elite. Donc, The Elite, normalement, c'est Kenny Omega et les Young Bucks. Kenny Omega fait bien son entrée sur le ring, mais il n'est pas accompagné par les Young Bucks. Il est accompagné par Gallows et Anderson, les Good Brothers, les champions par équipe d'Impact Wrestling. Ils vont affronter un trio qui est Danny Limelight, que je ne connaissais pas, et les Varsity Blondes, Griff Garrison et Brian Pillman Jr., le fils d'eux. Et on va se lancer sur un match assez classique à la All Elite Wrestling, en l'occurrence un tag team match de quasiment 10 minutes, qui était plutôt digeste. Alors on va dire que c'est quasiment trois jobbers de luxe, hein, Varsity Long et Limelight. Donc on n'avait pas beaucoup de doutes sur la victoire de The Elite, hein, quand même, il faudra quand même dire. Mais ils vont quand même mettre 10 minutes avant de pouvoir les cogner, même si globalement les Hills vont dominer quasiment tout le long. Ça va se terminer avec les Good Brothers qui vont réussir à porter leur Magic Killer sur le plus jobber des trois, en l'occurrence Limelight. La musique va à peine se terminer à la fin du match que c'est celle de John Moxley qui va se déclencher, et l'ancien champion va arriver pour se venger de ce qui s'était passé la semaine dernière. Il vient attaquer direct The Elite. Alors évidemment, il est en désavantage numérique, donc il se fait vite retourner le crâne. Mais là-dessus, les Lucha Brothers, qui étaient donc dans l'opener, refont leur comeback. Ils viennent pour le sauvetage, ainsi que d'autres lutteurs. Il y a tout un tas de monde sur le ring, ça part en bagarre. Là, une vraie bonne baston générale sur le ring. Il y a même des officiels qui sont là. Et les officiels, ils auraient mieux fait de pas venir, parce que Moxley, il va en choper un et il va lui coller un paradigm shift. Derrière, après ce paradigm shift, c'est les Young Bucks qui vont enfin venir. Ils vont venir d'ailleurs pour essayer de calmer Moxley. Et on sent que là, ils sont chauds pour coller un double super kick. Mais là-dessus, pas de chance. Les Lucha Brothers vont arriver dans leur dos. Alors, il y a une longue histoire, hein, entre les Lucha Brothers et les Young Bucks. Et c'est eux qui vont porter un double super kick aux Young Bucks. Donc, victoire de The Elite. Gros bordel à la fin du match. Est-ce que tu t'en es sorti avec toute cette histoire, mon Rafa?
Oh non, pas tout à fait, pas compris tout le monde. Par contre, toi, tu les appelles The Elite, Omega et les Good Brothers?
Non, c'est Omega et les Young Bucks normalement.
Et oui, voilà, c'est ça. Donc là, ils étaient pas. C'était ça le petit gag de la soirée, le petit coup de filou de Omega et de son manager, c'est qu'ils
Voilà.
avaient visiblement prévu les Young, enfin ils avaient fait croire aux Young Bucks qu'il allait avoir les The Elite, et finalement, The Elite, je crois que c'est la fin. Hein. C'est d'ailleurs quelque chose que je t'aurais demandé, toi, parce qu'il me semblait que dans The Elite, qui est un peu la base de cette fédération, puisque c'est la All Elite Wrestling, il y avait aussi justement Hangman Page, il y avait Cody Rhodes, non, au début d'ailleurs
Ouais,
aussi.
au début, ouais, c'était ça, ouais.
Et tout ça se délite, et puis là, je crois qu'on est à la fin, parce que les Young Bucks sont plutôt venus calmer Moxley, comme tu l'as dit, mais moi, je les sens bien plutôt devenir copains avec Moxley contre Omega et les Good Brothers là qui font pour le coup ce qu'on a l'habitude de les voir faire. Ils faisaient ça à la WWE avec AJ Styles, c'est-à-dire c'est les deux sales et méchants et crado et Vislard qui viennent aider leurs copains et qui viennent foutre des tatanes et des grands coups dans la gueule, surtout Luke Gallows parce qu'il est costaud. Donc là il y a une sorte d'embrouille autour du titre mondial qui met pas mal en valeur le bousin, je trouve, avec John Moxley qui veut vraiment pas se laisser faire et qui vient un peu se fighter. Et ça implique plein d'autres gens autour, donc ça montre que c'est important. C'est pas trop mal, même si c'est quand même un peu confus, effectivement, pour le suiveur nouveau comme moi. Parce que oui, c'est vrai qu'on se perd un peu à pronostiquer qui va être copain avec qui, mais j'ai pas trouvé ça mal parce que c'est vrai qu'Omega, tout jeune champion, là, il faut un peu que ça crée un. Voilà, il a une espèce d'entrée complètement surjouée, là où il est annoncé comme le champion de tout, le meilleur du monde, etc. Donc il faut que derrière, il y ait vraiment une emphase là-dessus et que ça se bastonne sec pour ce titre de la fédération, quoi. C'est pas rien non plus.
Ouais, complètement. Alors, moi, écoute, moi, j'ai trouvé le match plutôt de bonne qualité. La fin, c'était un bon gros bordel. Moi, j'aime bien souvent les gros bordels comme ça, dans les fins de match, dans les post-match. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde impliqué.
Il y en
Effectivement,
a eu.
il y a de la friture sur la ligne entre les Young Bucks et Kenny Omega. Parce que Kenny Omega s'est complètement transformé et vraiment est passé sur un alignement heel, alors que les Young Bucks sont toujours sur un alignement face. En plus, du coup, on rajoute à ça dans la sauce les Lucha Brothers qui sont en feu de quasiment permanente depuis le début de la All Elite Wrestling avec les Young Bucks. Donc, si tu veux, du coup, c'est vrai que ça a mis un sacré bordel. Donc, pour les habitués, il y a peut-être forcément eu de surprise de voir tous ces mecs-là débarquer. Moxley est particulièrement surexcité depuis la perte de son titre et à chaque fois qu'il apparaît, il est toujours dans un état pas possible. Là, tu vois, pour qu'il en vienne à carrément coller un DDT à un des autres. De frustration, hein, parce que c'est quasiment par frustration qu'il fait ça. Donc voilà, donc ça nous promet pas mal de choses. Comme d'habitude, en plus, ça anime gravement la Tag Team Division, hein, parce que là, il y a un paquet d'équipes dans la Tag Team Division qui sont capables d'aller chercher les Young Bucks. Les Young Bucks qui auront mis un an et demi à venir chercher le titre Tag Team, qui maintenant le tiennent, mais il y a du monde dans la queue, hein, et chacun veut prendre son ticket, et c'est compliqué pour se positionner, parce que sachant que, on l'a vu précédemment, voilà, l'Inner Circle vient aussi se positionner dans la Tag Team Division. Donc vraiment, ça confirme l'excellente santé de cette division au sein de la All Elite Wrestling, et moi, je t'avoue que voilà, c'est un segment sur lequel moi j'ai totalement adhéré, et j'ai été plutôt enthousiaste. Alors, est-ce que notre... Ouais, vas-y, excuse-moi.
Oui, j'allais dire oui, il y a le clash Tag Team Impact versus Tag Team AEW va sûrement avoir lieu et ça promet aussi une grosse affiche avec les Good Brothers. Ça va être un main event, ça va être un truc qui va faire vendre, ça je
Alors,
pense.
après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les Good Brothers parce qu'ils sont quand même champions à Impact.
Ouais, mais ils sont là.
Je les vois quand même difficilement aller chercher le titre à la All Elite Wrestling, quoi. Ça me paraît
Non,
assez
mais.
étonnant, mais il y a l'air d'avoir un vrai crossover qui a l'air de s'installer entre la Fédération canadienne
Ouais.
et la Fédération de Floride.
Exact.
Alors écoute, derrière on va avoir du backstage puisqu'on va avoir le premier talk show de Britt Baker qui s'appelle le Waiting Room.
Ouais.
C'est la première fois que ça se passe à Dynamite. Donc, comme souvent, Britt Baker, elle est dans un rôle, voilà, elle est très arrogante, elle se moque d'un peu tout le monde. Évidemment, comme c'est le tout premier, eh ben, elle annonce son premier participant et c'est nul autre que le vice-président, en l'occurrence Cody Rhodes. Donc elle considère que bah ce show c'est l'une des meilleures idées que d'ailleurs il ait eu à la Elite Wrestling malgré son tatouage dans le cou. Elle le félicite un peu pour tout, pour son année passée, pour la future naissance de son enfant. Cody va vouloir parler, mais au moment où il va parler, eh ben Baker va le couper en disant qu'elle a une invitée spéciale. Et à ce moment-là arrive Jade Cargill, qui est en rivalité avec Brandi Rhodes ces derniers temps. Alors Jade Cargill, pour la situer un peu, c'est la copine à Shaquille O'Neal. Et comme il bruisse des rumeurs comme quoi Shaquille O'Neal pourrait faire une petite ou une grosse apparition à la Elite Wrestling d'ici peu, voilà. Cette nana, elle est dans le show avec Brandi Rhodes, mais comme Brandi Rhodes est enceinte, ça va être un peu compliqué maintenant. Donc du coup, elle s'en prend directement au mari. Et il faut dire qu'avec le physique qui est là, on se dit qu'il y a quelques raisons pour qu'elle n'ait pas forcément peur d'un homme, vu qu'elle a des bras comme un homme.
Oui.
Et voilà. Et donc elle dit que elle en a marre, qu'elle a envie d'avoir un adversaire, que voilà, qu'on l'a fait tourner en rond, que personne ne la book. Finalement, elle va coller carrément une gifle à Cody. Là-dessus, on a Red Velvet, une autre fille qu'on a très peu vue en fait jusqu'à présent dans la division féminine, qui va débarquer, qui va venir mettre une claque à Cargill. Là-dessus, il y a un brawl qui va démarrer entre les nanas. Ça va se passer comme sur le post-match de The Elite précédemment, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de monde qui va débarquer et qui va venir chercher à venir les séparer. Là-dessus, il va y avoir Thunder Rosa, qui commence à être une habituée à la Elite Wrestling, qui est une lutteuse de la NWA, normalement, et qui va apparaître sur l'écran, et qui va dire, voilà, que elle, enfin, elle va avoir un match qu'elle demande depuis un moment face à Britt Baker, parce que Britt Baker, on l'aura pas beaucoup vu catcher ces derniers temps, et ce match aura lieu le 3 février à Beach Break, qui sera vraisemblablement le prochain pay-per-view de la Elite Wrestling. Alors, Rafa, qu'est-ce que tu penses de Jade Cargill?
Elle est impressionnante, hein.
Ah, t'as vu ça, hein? T'as vu le morceau de femme que c'est, ça?
Ouais, mais alors sur le segment total, et alors moi j'ai eu des passages qui m'ont fait marrer, de blagues et de clash, qui m'ont fait sourire. Par contre, quand tu regardes pas trop là, c'est encore vraiment mon opinion personnelle, hein. Ça c'est sûr, c'est subjectif, mais. Quand tu regardes pas trop et que tu les connais pas trop, c'est pas ça qui m'a donné envie de, tu vois, alors qu'on a appris à la fin que ça bookait un match et que la fameuse Britt Baker là qui joue le rôle d'une dentiste, je sais pas trop pourquoi. Du coup, je me dis j'ai pas trop envie de l'avoir catchée en fait. Elle a l'air de faire des blagues et d'être une bonne talkeuse, mais le segment m'a pas donné envie de me dire ah tiens, dans 15 jours elles sont sur un ring. Surtout que son opposante, elle était juste là à la télé depuis son Skype en conférence Zoom là ou je sais pas quoi. Mais par contre, le segment était marrant. Alors effectivement, j'avais pas l'info et tu l'éclaires sous un autre jour avec Shaquille O'Neal tout ça, parce que sinon je voyais pas du tout ce que Cody Rhodes était venu foutre dans cette galère. Il a pris une baffe, il a rien dit. En plus, ça parle de sa femme qui est même pas là et qui va pas être là. Donc j'ai trouvé un peu. Alors j'imagine c'était histoire de dire que ce talk show allait devenir un truc peut-être un peu récurrent et qu'il fallait un gros invité. Mais j'ai pas trop compris la pertinence d'avoir Cody Rhodes au milieu de tout ça. Bon, pourquoi pas.
Ah, c'était lié à la rivalité entre Cargill et Brandi Rhodes, en fait.
Et Brandi, ouais. Mais bon, Brandi, c'est pas Cody non plus, hein. Même s'ils sont mariés femmes, il a pas dit grand-chose.
Oui.
Les femmes sont grandes pour se défendre toutes seules maintenant. Il n'y a pas besoin que le mari vienne s'en mêler, quand même.
Eh ouais, quand même. On est au 21e siècle, merde.
Mais voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, écoute. Ah, ouais. On parlait de la bonne santé de la Tag Team Division à la Elite Wrestling. Et ben,
les
derrière
filles, non.
Ça, voilà, non, pas les filles. On va avoir un match, puisqu'on va avoir les FTR, les ex-Revival de la WWE. Alors, je situe encore un peu les noms, tu vois, des ex-WWE pour les suiveurs qui connaissent pas bien la Elite Wrestling. Donc, Cash Wheeler et Dax Harwood, accompagnés de leur manager Tully Blanchard, qui vont affronter le Jurassic Express. Ça nous avait été annoncé la semaine dernière. Et malheureusement, pour votre tonton Chris, et c'est pas le Luchasaurus qui va catcher ce soir, puisque c'est bien Jungle Boy et Marco Stunt qui vont affronter les FTR. Alors évidemment, là, il y a un déficit physique énorme pour les Jurassic Express avec l'absence du Luchasaurus. On va avoir un match de 12 minutes.
Quand même.
Où Stunt va se retrouver beaucoup coincé par Harwood et Wheeler, qui vont être malins, hein, bien sûr, hein, puisqu'ils vont essayer de Jungle Ball est beaucoup plus athlétique et beaucoup plus rapide et peut-être plus capable de tenir la dragée haute, alors que c'est sûr que quand c'est Marco Stunt, c'est beaucoup plus compliqué. au bout d'un moment, Stunt, il va essayer de retirer la protection qu'il a au coude pour faire comprendre que le match va toucher à sa fin et pour porter ensuite un coup de coude à son adversaire. J'ai inversé, c'est Harwood, Harwood. Stunt, il va répondre en collant un low blow que l'arbitre ne va pas voir. Il ne va pas voir non plus, d'ailleurs, l'arbitre que Tully Blanchard va envoyer Stunt contre le poteau hors du ring. Donc, l'arbitre, il est complètement à la ramasse. Wheeler, du coup, il va en profiter pour envoyer Stunt dessus. Pendant ce temps-là, Harwood va arriver. Les FTR, ils vont porter leur big rig pour la victoire. 12 minutes de match sans le Luchasaurus. Tristesse. Toi aussi, tu étais triste de ne pas voir le grand dinosaure, Raphaël ?
Ah, je suis triste de pas le voir, oui, parce que c'est quand même un des personnages de la AEW qui commence à être bien identifié et à être bien populaire. Mais je ne suis pas dans le... Je ne partage pas tout à fait, notamment notre ami Papy qui nous a laissé son avis pour ce soir, hein, on en parlera plus tard. Je ne suis pas dans le bashing total de Mark Austin, même si c'est vrai que c'est lui aussi un catcheur assez singulier pour d'autres raisons, parce que c'est vrai qu'il fait, 1m25 pour 12 kilos, comme on l'a déjà dit, mais... Je trouve que ça passe, moi. Enfin, il a une certaine façon de se jeter dans tous les sens, de prendre des bumps beaucoup, d'arriver un peu à jouer un peu le punching ball, à éviter les prises. C'est pas bon. Je préfère quand même Jungle Boy, qui lui, pour le coup, est effectivement assez affûté, hein, physiquement, et peut tenir le niveau par rapport. En plus, bon, ben FDR, c'est des grands techniciens, mais c'est pas non plus des. Physiquement, ils sont pas très impressionnants. Donc j'ai trouvé l'opposition plutôt sympa. C'est peut-être dû au fait que je suis pas encore coutumier trop de tout ce beau monde, mais j'ai trouvé, et ça avait été le cas aussi dans l'opener là avec Pac, que je trouvais les finishers arrivaient souvent assez vite. Enfin, je ressens pas encore, mais c'est peut-être là aussi vraiment un biais personnel. Ce climax qu'il y a souvent quand un match devient de plus en plus intense et que boum, là des fois ça me donnait l'impression que le finisher arrivait un peu au milieu d'une bagarre qui était, ça me paraissait plus linéaire, en fait, les dernières minutes avant le finisher, alors que d'habitude, je ressens plus un effet crescendo à la WWE. Bon, ça, c'est petite info personnelle. Mais je sais pas, on va peut-être avoir des rematchs avec le Luchasaurus qui prendrait place dans le ring. Ça serait bien quand même, parce que c'est quand même plus impressionnant de le voir catcher. Mais alors là, pour le coup, est-ce qu'il risque pas d'être un peu trop monstrueux pour FDR? Non, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai bien aimé.
Eh ben écoute, je vais te rejoindre moi déjà sur un point, c'est que j'ai beaucoup de respect pour Mark Austin au final. Parce que ce môme-là, il s'envoie dans tous les sens, il se prend des bumps incroyables et il a vraiment aucun physique, quoi. Comme tu l'as dit, il est tout petit, tout léger, il n'est pas musculeux, parce qu'on peut être petit et être très musculeux, ce qui n'est pas son cas en plus, il est très fin. Et moi je lui trouve un courage sans faille, vraiment là-dessus. Alors bien évidemment, je préférerais mille fois avoir le Luchasaurus dans le ring. Oui. Jungle Ball est en plus un très bon technicien et pareil, c'est un môme qui est courageux aussi. Mais vraiment, Mark Austin, moi je lui reconnais vraiment ce truc incroyable. Je veux dire, si j'avais eu son physique, je pense que jamais je me serais dit, tiens, je vais devenir catcheur, tu vois. Et lui, il y est allé. Et alors, stunt en plus, en anglais, ça veut dire cascadeur quand même, quoi. Donc, il est vraiment dans son personnage, parce que c'est incroyable ce qu'il fait dans le ring. C'est pas une question que ça soit un super technicien ou quoi que ce soit, ou un brawler de folie, mais tout ce qu'il fait, à chaque fois, c'est totalement incroyable. Il est toujours en train d'essayer de s'en sortir. Il est filou, il passe entre les jambes des mecs, il évite les gars. Voilà, c'est un peu un roi de l'esquive, mais un roi de l'esquive qui a ses limites, parce qu'au bout d'un moment, il se fait choper. Et puis quand il se fait choper, ça va très très mal, quoi. À un moment, Harwood et Wheeler réussissent d'ailleurs à le bloquer contre le turnbuckle. Et là, il prend cher à ce moment-là. Et j'avoue que même si je ne suis pas un fan du garçon, quoi, mais je reconnais vraiment, j'ai du respect pour lui, parce que je ne sais pas si j'arriverais à tenir que lui, il prend en 10 minutes de match, là, tu vois, face au FTR, quoi, vraiment.
Je sais pas quel est sa... Est-ce que tu le connais d'avance? Il a l'air jeune. Quel est son parcours pour qu'il soit arrivé là, déjà?
Non, moi, je l'ai découvert vraiment à la Weight Wrestling, je crois. Alors, fact-checking, peuple de catch-up, mais il me semble qu'il était dans la fédération de Joey Janela. Mais voilà, c'était vraiment un garçon que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert à Outlaw Wrestling, qui est depuis le début, qui est au Jurassic Express, hein, ces trois-là, ils sont toujours ensemble depuis le départ. Mais voilà, je dois reconnaître que après ce match, je me suis dit, ah, quand même, ce môme là, c'est incroyable ce qu'il fait. Quoi. C'est vraiment, faut vraiment en avoir dans le pantalon, quoi, pour. Parce qu'en plus, si tu veux, depuis le début, il a longtemps, quand le Covid a commencé, etc., il était beaucoup ringside. Et il s'en prenait systématiquement aux mecs les plus balèzes. Il s'est fait démonter par Lance Archer d'une puissance, mais un truc de dingue. Et donc non, vraiment, ce gars est assez incroyable. Mais bon, il me tarde quand même de revoir la version Jungle Boy Luchasaurus, que j'espérais d'ailleurs voir à un moment ou un autre rôder autour du titre par équipe. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et puis bah là, avec la victoire des FTR, les FTR, ils sont en train de se replacer dans la course pour le titre tag team. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, il y a du monde. Hein.
Il y a tellement de monde.
Sur le tag team championship, là, ça se bastonne sévère. Et c'est bien sympa, malgré tout.
Ouais.
Allez, on va passer aux femmes. Alors, comme régulièrement ces derniers mois, le titre NWA, le Women's Championship de Serena Deeb, va être défendu ce soir face à Tay Conti du Dark Order, qui est accompagné de Anna Jay, les deux femmes du Dark Order. Alors Tay Conti, c'est une ancienne de NXT, une brésilienne, très exactement, et elle va affronter Serena Deeb, qui est donc la championne en titre, et qui est assez impressionnante, voilà, et qui tient ce titre depuis un moment maintenant. Elle l'a pris à Thunder Rosa, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir un match de championnat de quasiment 10 minutes, ce qui est assez rare chez les femmes au niveau de la Elite Wrestling. Et Tay Conti va pas donner sa part au chien, hein, va vraiment se défendre face à la championne. Alors autant cette fille, elle était totalement effondrée pendant l'hommage à Brody Lee, etc. Mais là, on sent qu'elle a repris un peu du poil de la bête. C'est une ancienne judokate et une ancienne, alors je sais pas comment on dit, une ancienne, enfin pratiquante de jujitsu, ceinture noire de judo quand même. Et d'ailleurs, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire?
J'allais dire effectivement, c'est une excellente question. Comment on dit une jujitsuite? Je ne sais pas.
Je ne sais pas
s'il y a un mot.
Fact-checking, peuple de ketchup.
Exactement.
Voilà, et donc du coup, Deeb, qui est une bonne technicienne aussi, elle va réussir à porter son stretch muffler, là, qui est une espèce de prise de soumission avec la jambe qui est enroulée autour du cou. Mais Tay Conti va réussir à casser la prise en chopant les cordes. Du coup, Deeb, elle va repartir sur une prise de soumission, mais cette fois sur un bras. Conti, elle va tenter de la renverser, elle va la coller sur un roll-up pour un compte de deux. Deeb, elle va quand même garder l'avantage. Va garder le momentum, elle va placer un fireman pour un compte de deux à nouveau. Cette fois, Conti, elle va réussir à s'en sortir, elle va un peu s'échapper, elle va réussir à monter sur le poteau et elle va porter un joli pump kick du haut du poteau. Elle va vouloir enchaîner alors avec sa prise, je crois que c'est son takio, donc c'est une prise d'ailleurs issue du judo, du jujitsu, c'est un espèce de mélange. Mais Deeb, elle va la choper avec un black slide, elle va passer son finisher, un détox, victoire 1, 2, 3 de Serena Deeb qui conserve son titre. NWA, ne nous demandez pas où est passé le titre féminin au Elite Wrestling, on n'en sait rien, Hikaru Shida n'aura pas donné signe de vie ce soir, alors on fait avec ce qu'on a à se mettre sous la dent, mon Raphaël.
Oui, bah écoute, je trouve ça pas si mal comme programme à se mettre sous la dent. Hein, on m'avait dit...
C'était peut-être pour moi l'un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu à Dynamite depuis des mois. Là.
On m'avait dit pique-pendre de cette division féminine et puis finalement on s'en sort pas trop mal. Bon, je trouvais que la petite blonde du Dark Order, est-ce que c'est un biais personnel là aussi? Il l'a filmé pas mal sous son meilleur profil de dos, un peu. Je sais pas si c'est pas pour attirer un petit peu le chaland là, les personnages comme moi qui sont pas là souvent et puis se dire tiens. Mais et au début j'avais un peu l'impression que c'était la blonde qui allait jouer ce rôle-là et en fait effectivement elle s'est pas mal démerdée, elle est athlétique. Mais l'autre est plus impressionnante, hein, physiquement plus costaud.
Ouais.
Et puis, bah, même tu vois, si je connaissais personne, je me doutais bien qu'un titre de division n'allait pas changer quand c'est pas la bonne fédération. Enfin, donc le résultat me paraissait assez couru d'avance. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt un match 10 minutes, t'as dit, ouais, plutôt un bon match féminin. Hein.
Ouais. Écoute, moi je suis. Bah, Tay Conti, moi je l'avais découvert à NXT. Et je trouvais que moi je pensais pas en fait qu'elle ferait partie d'une charrette et parce que je trouvais qu'elle avait un certain avenir peut-être et finalement bon elle est partie, elle s'est retrouvée à la Elite Wrestling et je retrouve finalement son moveset qu'elle avait à NXT et techniquement elle est plutôt au point, elle est plutôt jolie, c'est une brésilienne comme tu dis, elle est peut-être un peu là pour attirer le chaland effectivement. En face, il y a une Serena Deeb que moi je découvre et que j'aime plutôt bien. C'est une catcheuse que je trouve assez impressionnante, qui est assez à l'aise dans le chain wrestling, qui est beaucoup basée sur les soumissions et qui passe aussi des bonnes souplesses. Elle paraît assez impressionnante, voilà. Enfin, je trouve qu'elle dépareille pas, et je trouve qu'elle serait d'ailleurs tout à fait à l'aise dans la division féminine de la Elite Wrestling. Il s'avère qu'elle est à la NWA et qu'elle est championne actuellement, donc elle va pas en partir comme ça. Mais je suis plutôt intéressé par cette Serena Deeb. Donc je te dis, pour moi, c'est un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu la Elite Wrestling ces derniers mois. Donc écoute, ça me va plutôt bien. Et si Tay Conti et Anna Jay, parce que Anna Jay, elle était en accompagnatrice, on va dire, de Tay Conti, mais Anna Jay est pas mal du tout dans le ring aussi. Et donc, du coup, bah, moi, j'aimerais bien voir ces deux filles un peu plus haut dans la division féminine. Et pourquoi pas, justement, mettre en avant le Dark Order par le biais de ces femmes. Je trouve que ça serait un joli pied de nez, en fait. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt... ça, tu vois, moi qui me plains tellement de la division féminine depuis des mois et des mois et des mois, que là, ça m'a un petit peu réconcilié quand même.
Eh ben, il suffisait que j'arrive, tu vois. Moi qui suis un grand fan, ça serait... Je vais pas dire que je suis un grand fan des divisions féminines, mais en tout cas, disons que, contrairement à certains de mes camarades, je trouve ça important d'avoir du bon catch féminin, donc j'y fais attention.
Clairement. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui aiment le catch féminin. Et c'est justement un de mes drames à la Elite Wrestling, c'est que je n'arrête pas de me plaindre de la division féminine et j'attends avec impatience qu'ils relèvent le niveau dans cette division-là parce que vraiment ça manque. Donc du coup, voir un match comme ça à Dynamite, ça fait plaisir. Allez, ouais. On est au bout. Main event, et oui, tout à fait, tu as raison, on est au main event. Donc le main event, ça a été comme annoncé la semaine dernière, c'est le TNT Championship qui va voir s'affronter Darby Allin, le champion en titre, à Brian Cage, le monstre de la Team Taz, qui est bien évidemment accompagné par Ricky Starks, par Hobbs et Taz. On va avoir un main event de 13 minutes. Alors là, avec encore une fois, un petit peu comme dans l'opener finalement, avec un gros différentiel de physique déjà entre les deux, et aussi techniquement, parce que là, on a un vrai powerhouse en la personne de Brian Cage, et on a un cruiserweight qui est à peine un cruiserweight, qui prennent quasiment un poids mouche, en l'occurrence Darby Allin. Alors je ne sais pas si l'amiral nous entend, mais s'il nous écoute, il doit être ravi que Darby Allin soit champion TNT, et deux, il a dû être ravi de la tournure qu'a pris ce match, puisque Darby Allin, il va être quand même largement dominé, en particulier pendant les 7-8 premières minutes, mais il va petit à petit reprendre le dessus. Il va bien saigner aussi, parce que Cage, c'est un gars qui est assez stiff, et puis c'est un tel colosse que le moindre coup avec lui, ça prend des proportions pas possibles. Ça va pas empêcher Allin quand même de réussir à porter son Corfin Drop sur Cage, alors que Cage, il était à l'extérieur, allongé sur les escaliers. L'arbitre, du coup, il va venir auprès de Cage pour voir si ça va. Starks, il va profiter de ce moment-là pour essayer de frapper le champion en titre. Et au moment où Starks va faire ça, les lumières vont s'éteindre. Et que se passe-t-il ? It's Sting. Voilà, Sting arrive très très lentement. Non, sur ce coup-là, il n'arrive pas très très lentement, parce qu'en fait, avec le jeu des lumières, ils nous ont fait un coup à la The Fiend. Sting, il est juste derrière Starks. Celui-là, il va se retourner et il va se faire bien sûr frapper à coup de batte par le Stinger. Cage, qui semblait dominant à ce moment-là, et alors que Allin était vraiment dans un vraiment très mauvais état, qui saigne tout ce qu'il peut, le pauvre. Alors, tu me diras ce que t'en as pensé. J'ai hésité longuement entre un blade job ou une vraie blessure. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas de figure, Darby Allin, sur la fin de ce main event, il est vraiment dans un sale état. Mais il va réussir à surprendre le challenger en portant, alors ça j'avoue que ça m'a épaté, puisqu'il porte une crucifix bombe à Brian Cage pour le compte de 3, grâce quand même en grande partie à l'intervention de Sting. Victoire de Darby Allin qui conserve son TNT Championship, et ainsi va se terminer ce Dynamite. Voilà, Raphaël, qu'est-ce que t'as pensé de ce main event ?
Bref, je suis un peu mitigé, hein, honnêtement. Pour répondre à ta question, moi j'ai plutôt l'impression que c'était un work, hein, le saignement, parce qu'il commence à saigner au moment où Brian Cage, je l'envoie sur la table à l'extérieur là. Ouais. Et on voit bien, enfin on voit sur le ralenti que l'angle qu'il prend pour tomber, il se retourne, ben voilà, il fait, comme on l'a dit, hein, les catcheurs c'est des cascadeurs, il se met bien de dos, enfin il amortit le choc, sa tête tape pas, enfin j'ai pas l'impression que sa tête tape, alors qu'après il saigne en plus du mauvais côté, enfin je pense que c'était parce que pendant qu'il est tombé comme ça, écrasé sur la table, ils ont bien filmé Brian Cage et puis Taz et tout ça de tête. Donc, il y a eu le temps qu'il se fasse un petit maquillage ou je sais pas quoi. Mais j'ai un peu de mal. Alors, c'est la deuxième fois que ça me fait ça avec la All Elite Wrestling. La première fois, c'était le premier match TNT Championship. C'était justement Lance Archer contre Cody Rhodes. Je trouve qu'ils ont du mal à scénariser les David contre Goliath, les victoires des David. Autant à la WWE, je l'ai vu plein de fois, notamment avec ton idole, ton Rey Mysterio, qui a battu des Batista, des tout ce que tu veux. Autant là, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à le raconter et qu'en fait, ça donne juste l'impression qu'à un moment donné, le gros costaud arrête de catcher. Lance Archer, j'avais eu cette impression. Et là, bon, bien sûr, il y a eu l'intervention de Sting, qui peut dérouter plus d'une personne, puisque c'est quand même surprenant. Mais Brian Cage, j'ai trouvé qu'il était un peu... Ouais, il a passé les 2-3 dernières minutes, là, à partir du moment où il y a eu Sting, statique, en fait, stoïque, à hébéter, à rien faire, et à prendre un finisher, et en plus à se faire river les épaules un peu... Oui, il y a la bombe, mais après, il le retourne un peu. Il met tout son poids de, pareil, 25 kilos de Darby Allin. Donc, j'ai eu un peu cette impression de me dire, ils n'arrivent pas à... En tout cas, pour moi, ils n'arrivent pas à raconter cette histoire correctement du petit gabarit qui, héroïquement, résiste. Alors, résiste, oui, ça, il résiste. Putain, il a mangé quand même Darby Allin.
Ah, carrément.
Et des powerbombs et tout ce que tu veux dans tous les sens. Mais j'arrive pas, dans notre fameuse suspension d'incrédulité de fan, là, j'arrive pas trop à mordre. Par contre, ils ont l'air d'avoir énormément confiance en ce gamin parce que la filiation avec Sting, c'est quand même une belle preuve de confiance. Donc, tant mieux pour lui. Et j'espère qu'il sera à la hauteur des espérances. On va dire qu'il a un regard très intense et une certaine personnalité. Mais là, il a pas catché, quoi, en fait. Darby Allin, là, je l'ai vu prendre des coups, faire du selling, et puis, gagner, faire une prise à la fin, mais ça a été assez court, donc je suis un peu mitigé. Je sais pas, toi qui l'aimes pas trop, je cru comprendre, est-ce que t'as été plus convaincu, ou c'est pareil, c'est l'habitude?
Ouais, écoute, j'ai trouvé le match plutôt pas mauvais, mais comme toi, en fait, je suis pas un fan de Darby Allin, je l'ai déjà dit à l'antenne plusieurs fois. Un peu comme Mark Austin, finalement, il m'a fait un peu le même effet que Mark Austin dans le match précédent, où vraiment, qu'est-ce qu'il a bumpé et qu'est-ce qu'il a pris cher avec Brian Cage pendant les 8-9 premières minutes du match. Après, voilà, Sting est en train de... C'est son mentor, là, depuis quelques semaines, là, et qui est en train de le prendre sous son aile, donc c'est quand même un sacré honneur, j'ai envie de dire, quoi, d'avoir le Stinger comme mentor, comme maître gourou. C'est assez incroyable, d'ailleurs, que le Sting, finalement, se lance comme ça, c'est avec un Darby Allin. Moi, le Sting, je sais pas trop comment ils vont l'utiliser pour la suite, mais finalement, comme ça, moi, ça me va bien, quoi. En espèce de maître Yoda de Darby Allin, pourquoi pas, quoi. Mais effectivement, j'ai le même problème que toi, c'est-à-dire que c'est cette fin de match qui me pose souci, quoi. C'est cette apathie de Brian Cage, qui est un monstre parmi les monstres, et qui, pour lui, est un catcheur que je connais super bien, que j'ai vu à TNA, que j'ai suivi pendant 4 saisons à la Lucha Underground, que j'ai même vu en France catcher. Donc, j'ai pas compris pourquoi tout à coup Brian Cage devenait si apathique. Mais le problème, en fait, c'est qu'on est en train de nous vendre que même les pires powerhouses de la All Elite Wrestling sont en panique absolue dès que le Sting de 61 ans débarque. Sa simple présence suffit à mettre en panique totale tous les mecs de la All Elite Wrestling. Et ça, moi, je trouve que c'est un petit peu gênant quand même, quoi. C'était pas. Et en tout cas, sur les défenses de titre du TNT, sur tout ce que j'ai vu sur le championship du TNT, franchement, c'était certainement un des matchs les plus faiblards, quoi. Il y a eu d'autres matchs vraiment de meilleure qualité que ça. Là, c'était pas mal, mais c'était pas extraordinaire, quoi. Ça m'a pas super emballé. Mais bon, j'avoue que j'ai peut-être un petit a priori parce que je suis pas un fan déjà à la base de Darby Allin. Donc, moi, je t'avouerais que quasiment j'attendais la victoire de Brian Cage, pour dire la vérité. Donc, c'est pas ce qui s'est passé. Sting est arrivé. Victoire de Darby Allin. Il conserve donc son TNT Championship. Ainsi s'achève ce Dynamite. Et on va switcher, mon bon Raphaël, comme tu connais dans la procédure de la baston du mercredi. Et on va aller à NXT, au Capital Wrestling Center, pour retrouver Beth Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett, qui nous présentent donc ce 438e NXT. Alors, la semaine dernière, on avait donc eu un show un peu spécial. Là, on est revenu à du classique. Le show va commencer d'entrée avec un match, puisqu'on va avoir un match féminin pour commencer, puisqu'on va avoir Candice LeRae qui va affronter Shotzi Blackheart. Alors, il commence à y avoir un certain historique entre ces deux nanas-là. Hein. Ça, y a vraiment pas une super ambiance entre les deux. C'est un match qui va durer, je pense, une bonne dizaine de minutes. 11 minutes 33, tu vois, je pensais que c'était un petit peu plus court que ça, mais non, 11 minutes 33 quand même, quoi. Et ça va être un match assez équilibré, voilà, séquence pour la face, séquence pour la heel. Candice LeRae vraiment totalement transformée ces derniers mois dans cette espèce de clan qu'ils viennent de créer là avec Gargano là, The Way là avec Austin Theory. Finalement, Candice LeRae quand même reste relativement supérieure à Shotzi Blackheart qui est encore à l'image de ses cheveux assez green quand même dans le ring, et Candice LeRae va gagner avec son top rope swinging neck breaker. Elle aura eu bien évidemment l'intervention d'Indy Hartwell qui va être montée sur le bord du ring pour pouvoir distraire Blackheart, et ça va donner la victoire à Candice LeRae, mon bon Raphaël. Alors, match féminin de NXT. Là, on sait déjà que dans la division féminine de NXT, déjà, il y a un level supérieur par rapport à la All Elite Wrestling.
Ouais, bon, c'est pas Rhea Ripley, Raquel et Yoshirai et tout ça. Mais... Oui, j'ai bien aimé. Alors, c'est ce que je trouvais difficile et je voulais avoir ton avis. Peut-être que vous en avez déjà discuté dans les bastons précédentes aussi. Quand on compare deux shows comme ça, il faut arriver à être neutre. Et c'est vrai que j'ai regardé la All Elite dans des conditions bien meilleures, on va dire personnelles, que NXT. J'ai regardé là juste avant qu'on review et j'étais un peu fatigué tout ça. Donc, j'ai été moins apte, je pense. Mais... j'ai bien aimé, l'opener m'a plu. Je trouve que Shotzi Blackheart, comme tu dis, elle est green, mais comme elle a les cheveux verts, je trouve que on s'attache un peu à ce côté-là, à se dire « Ah, c'est une petite nouvelle, elle est jeune, elle a l'air motivée, elle a l'air rigolote, parce que voilà, elle a tout un petit univers, donc elle a l'air d'avoir envie de bien faire, et du coup, on s'attache, je trouve, on s'attache plus que quand c'est des rookies qui débutent avec encore un peu de timidité, pas trop de personnages, un peu des no-name. Donc ça a bien marché, ça marche bien sur moi cette histoire d'affrontement. En plus, il y a la grande là qui fait vraiment grande bécasse. Là, je trouve Indy Hartwell à côté qui joue un peu la nunuche et puis qui arrive quand même à aider Candice LeRae. Bon, je sais pas si elle catche beaucoup. Elle est quand même d'un gabarit un peu plus imposant, Indy Hartwell, mais.
Ouais.
Mais comme tu l'as dit, là, Candice LeRae, maintenant, c'est la queen de NXT, quoi, presque.
Donc, ouais, c'est un petit peu son personnage. Ouais, c'était un match, moi, que j'ai trouvé assez moyen, en fait. Ouais, Shotzi Blackheart, pour l'instant, j'ai un peu de mal, quoi.
Ah oui.
Je trouve qu'elle est installée dans son personnage. Ça, je lui retire pas ça. Mais pour moi, dans le ring, c'est quand même super léger, là. Et là, on a vraiment vu la différence. Moi, j'ai trouvé que Candice LeRae, qui est quand même une vétérane, hein, quasiment, du ring, hein, parce qu'elle, ouais, ça fait très, très longtemps qu'elle est sur les circuits indie. Et moi, j'ai trouvé qu'on voyait vraiment une grosse différence entre les deux dans ce match-là, quoi.
Mais elle me fait penser un peu à Alexa Bliss, pas du tout, Shotzi Blackheart, pardon. Alexa Bliss du tout début, justement, quand on...
Ouais, un petit peu, ouais.
Elle était juste pom-pom girl, on se dit, tiens, c'est qui cette meuf, elle n'a pas l'air de savoir trop faire grand-chose, mais à l'énergie, elle a réussi à faire carrière, donc on lui souhaite la même. Hein.
Ouais, complètement, ouais. Allez, on va continuer, parce qu'on a un programme chargé quand même, on va avoir le champion, le prince, qui est sur le ring, Finn Balor. Voilà, qui nous parle un petit peu de Kyle O'Reilly, quoi, qui dit que bah, dorénavant il utilise une paille pour prendre ses repas, c'est toujours sympa.
C'est facile.
C'était assez facile.
Une paille pour boire la Guinness.
du coup, l'Irlandais, il va commencer à se lancer sur une promo, mais il va être interrompu par le brand, par la team Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Pete Dunne, il va prendre le micro, il va nous expliquer qu'il savait que leur route allait se croiser à nouveau avec le Finn Balor. Il lui dit que Finn Balor, dorénavant, c'est la tête d'affiche un peu du catch UK et que c'était un peu la seule raison pour laquelle il n'avait pas encore décidé de prendre le titre, mais que désormais, c'est terminé. Il n'a plus l'intention de faire la queue. Du coup, les trois mecs vont s'attaquer directement à Finn Balor, un bon gros beatdown. Et malgré que Finn Balor, il se défend hein, quand même, hein, il va pas se laisser tabasser comme ça. Il est en infériorité numérique malgré tout et il peut rien faire. Sauf que, et ben il y a Kyle O'Reilly qui va débarquer et qui va tenter de faire le sauvetage. Bon, ça va pas beaucoup marcher non plus pour Kyle O'Reilly, hein, qui on sent qui est pas vraiment en état, et il va falloir attendre l'arrivée de Roderick Strong et d'Adam Cole pour stopper les trois énervés et finalement les voir se barrer. Alors, on en reparlera un petit peu, mais vite fait, mon Raphaël, là, Finn Balor, Pete Dunne, ça t'intéresse pour le titre suprême de NXT ?
Oh bah, écoute, moi, je crois que Pete Dunne, quasiment tout ce qu'il fait, ça m'intéresse. Hein. Donc, Pete Dunne, on va dire qu'on accroche, même si je ne suis pas très fan de cette brand-là. J'aimais beaucoup le Pete Dunne du début, là, quand il avait son style de gamin des rues de Londres ou je ne sais pas quoi, qui marchait tout seul avec sa veste. Là, je trouve que son côté... Team Guy est pas, ça me convainc pas trop. Je sens que ça va vite exploser cette histoire. Par contre, en solo, on l'avait déjà vu contre Kelly O'Reilly dans le War Games. Ils avaient été assez énormes tous les deux dans leur affrontement. Donc là, Finn Balor qui marche aussi un peu sur les eaux. Hein. Tu l'as dit, le Prince c'est son surnom, mais ça lui va bien. C'est un peu, il est un peu une tête au-dessus de tout le monde. Donc oui, moi je mords assez à ce projet là, ouais.
Ok, impeccable. Alors dans la foulée, il y aura un petit segment backstage avec Gargano. Qui va féliciter sa femme, bien évidemment, quand même, qui a gagné ce soir. Il explique qu'il va faire la même chose parce qu'il va affronter un peu plus tard dans la soirée Dexter Lumis. Et il explique aussi qu'il va remporter le Dusty Rhodes Tag Team Classic avec Austin Theory, qui lui-même d'ailleurs va arriver avec des petits tableaux qui sont dessinés par le nouveau dessinateur de NXT, en l'occurrence Lumis, qui fait des espèces de caricatures plutôt sympas d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui les dessine, mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Voilà, donc évidemment ça va pas être au goût de Gargano. Sans transition, c'est bien le cas puisque on va attaquer enfin le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Les quarts de finale vont commencer avec les Grizzled Young Veterans qui vont affronter l'équipe québécoise des Everrise. Et là on va avoir un match finalement assez court puisqu'on va avoir un match de 8 minutes qui sera comment dire, on va dire que c'est une victoire sans surprise des anciens lutteurs là, de NXT UK. Parce qu'ils arrivaient gros comme une maison et qu'on se doutait bien qu'ils allaient faire très très mal dans ce tournoi. Mais les Everrise vont pas capituler comme ça, ils vont quand même se battre. Ils sont les deux Québécois, moi je les trouve très bons en double team, entre autres, quoi. Ils ont des bons moves, ils ont des trucs assez spectaculaires. Ils vont quand même être attrapés par les deux roast beef, parce que les deux roast beef, bah, c'est les roast beef, hein, donc ils sont brutaux. Et donc ça va cogner très très dur. Ils vont finalement réussir à placer leur ticket to Mayhem pour sceller la défaite des Everrise. Les Grizzled Young Veterans avance dans le tournoi. Alors, ce premier match de Dusty Rhodes Tag Team Classic, Raphaël, t'en as pensé quoi ?
Alors, je vais de suite faire un tout petit correctif de ce que tu nous as brillamment décrit, tonton Chris. C'est pas les quarts, c'est les huitièmes. Hein. Ils sont 16 équipes.
Ah oui,
là.
Oui, excuse-moi, c'est le Sweet 16. Oui, t'as raison, oui. Ouais, tu sont très bien de corriger, ouais.
Mais c'est la preuve qu'ils sont beaucoup, hein. Il y a du monde.
Alors, on a une petite, encore les problèmes de technique. On a vraiment des techniciens son hein, qui ont décidé de nous emmerder jusqu'au bout. Donc mon bon Rafa, on parlait du Sweet 16, on parlait du premier match entre les Grizzled Young Veterans et les Everrise.
Oui, donc j'ai plutôt aimé l'affrontement, comme je disais, mais avec la difficulté de s'impliquer sans trop connaître les deux équipes. Mais c'est toujours pareil, hein, celui qui perd, on se dit on va pas trop le revoir. Ils avaient l'air bien punching ball, là tu les as bien aimés en double team, les Everrise. Mais ils étaient quand même plus petits au niveau du gabarit. Les deux autres me paraissent prometteurs en tant que, peut-être pas favoris quand même, mais c'est les Grizzled Veterans, ils sont costauds. Et comme tu l'as rappelé d'ailleurs, NXT, ça devient un beau vivier pour un bel hommage à la grande et glorieuse nation anglaise, hein, parce que, enfin, britannique, voilà. Hein.
Ah ouais, les Britanniques sont à l'honneur, hein. ça c'est une évidence quoi. Hein. Franchement là, ouais, écoute, c'était pas mal ce match quoi. Moi j'aime bien les Everrise quoi, mais ils font que jobber tout le temps. Alors donc du coup on a du mal un peu à savoir ce qu'ils pourraient donner en allant un petit peu plus haut dans la carte. Mais je les trouve justement vachement à l'aise en double team. Je trouve qu'ils ont plein de moves assez originales. Et moi c'est une équipe que j'aimerais bien voir un peu plus haut. Mais les deux Anglais là, de toute façon, ils étaient tellement annoncés comme des monstres que de toute façon, j'avais pas beaucoup d'espoir pour les Québécois quoi. Enfin, allez, c'est comme ça. Allez, derrière, on aura une petite vignette de la chouchoute de Papy, en l'occurrence Raquel Gonzalez, qui nous explique que maintenant qu'elle a battu Rhea Ripley, ce qu'elle veut, c'est monter dans le main event féminin, et elle a bien raison cette dame. Là-dessus, on va continuer avec les femmes puisqu'on aura Chelsea Blackheart qui va être à nouveau interviewée à propos de sa défaite du soir. Et elle explique qu'elle va se venger tout simplement en participant au Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, car elle sait que Candice LeRae et Indy Hartwell vont y participer. Et donc, il lui faut une partenaire. Et qui va être cette partenaire? Eh bien, elle va débarquer pendant l'interview. Et c'est tout simplement Ember Moon. Et ensemble, elles expliquent qu'elles vont écrire l'histoire en remportant la première édition féminine du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Alors, content, Rafa, de ce retour de Ember Moon, là?
Oui, chef. Oui, en soi, oui, parce que c'est une bonne catcheuse. Après, Ember Moon, c'est montagne russe, hein, ces dernières années.
Eh oui, hein. Ouais.
Donc, mais content, et puis bah, très bonne idée de profiter de ce tournoi. Et effectivement, tout à fait raison. Les gagnantes de ce tournoi vont écrire l'histoire. Est-ce que c'était peut-être pas trop tôt pour déjà créer une version féminine de ce tournoi? Est-ce qu'il va y avoir assez d'équipes? Là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on ait les 16 équipes. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu le total des équipes qui est sorti, mais à mon avis, on va commencer direct par l'écart. Pourquoi pas, hein? Amber Moon, ce type Blackheart, allez, on verra.
Ouais, puis comme ça, on met à Chelsea Blackheart, on lui met à côté une nénette qui a de la caisse.
Ah bah oui.
Et je pense que c'est que du positif pour Chelsea Blackheart de se retrouver avec Amber Moon en équipe. Donc, autant que ça continue comme ça. Allez, on enchaîne avec le ring, puisqu'on va avoir un match qui va suivre, puisque on va avoir le champion North American, en l'occurrence Johnny Gargano, accompagné de tout le monde, hein, Austin Theory, Candice LeRae, Indy Hartwell, tout le monde va être là pour affronter Dexter Lumis dans un match de quasiment 11 minutes. Alors le Johnny Gargano, je pense qu'il va utiliser à peu près toutes les ficelles de tricheur habituelles qu'il utilise, mais cette fois-ci c'est sans arrêt, ça fait des mois que ça dure de toute façon. Gargano ne gagne plus un match sans tricher. Il va évidemment enregistrer une nouvelle victoire via une intervention. Cette fois, c'est Austin Theory qui va venir et qui va permettre à Johnny Gargano de placer un sale roll-up des familles pour la victoire, alors que Dexter Lumis était plutôt dans un bon momentum et qui s'apprêtait à poser une souplex à Theory et qui voulait en faire de même avec Gargano. Mais ça ne va pas suffire, il va se prendre un bon petit roll-up des familles, voilà. Après le match, Lumis, il va quand même porter sa soumission là, sur Theory, mais Johnny Gargano va l'attaquer. Et alors qu'il s'apprête à le cogner dessus, eh bien, il y a Kushida qui débarque et Kushida qui vient faire le sauvetage, qui va placer son overboard lock sur Gargano. Tandis que pendant ce temps, Lumis, lui, il est en train de s'occuper de Theory. Et Kushida met clairement la main sur le North American Championship. Et là, je pense que ça y est, le Kushida vient enfin de se placer dans la title picture. Et ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle, Raphaël.
Oui, c'est une bonne nouvelle. C'était un peu attendu après ce qui s'était passé la semaine dernière.
Oui.
Mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne confirmation. Un peu déçu hein, pour Dexter Lumis. Même si, comme tu l'as dit, bon, Gargano, voilà, c'est the way en tant que clan, en tant qu'entité et tout récent. C'était assez logique qu'il l'emporte. Un peu déçu comme toi que Gargano catch plus trop. Enfin, il catch évidemment, mais qui soit plus dans un registre de heel psychologique à vouloir voler la défaite, à vouloir voler la victoire, pardon, que catchesque. Mais par contre, sinon, affûté quand même le Lumix, hein, il fait toujours ses prises là, il se relève, il se couche au sol, il est assez impressionnant ce garçon. Et moi, je serais pas loin de souhaiter que Gargano l'emporte face à Kushida, mais que le futur champion soit. Enfin, en 2021, je suis quasiment sûr que ce Lumis, s'il continue comme ça, il va toucher quelque chose. Il va toucher une ceinture. Donc, un peu déçu, mais pas trop quand même, parce qu'on sent, que c'était un de leurs gros projets là, en 2020, ce jeune homme aux yeux, au regard froid. Mais il continue d'être bien placé. Après, j'aimerais bien qu'il. Son finisher, là, c'est tout le temps son silence, là, sa prise de finition, ouais. Sa prise de soumission. J'aimerais bien qu'il ait un truc plus. Un truc qui fasse un compte de 3, quoi, un truc plus, pas un claymore, mais tu vois ce que je veux dire, un truc plus rapide que ce truc-là.
Un truc plus impactant, quoi.
Ouais.
Ouais. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Après, moi, je te dis, moi, je suis un peu. Moi, c'est Gargano, en fait, commence à me lasser, quoi. Je commence à en avoir marre, en fait. Parce que NXT, c'est quand même à la base la ligue de développement, et là, un type comme Gargano, il est là depuis tellement longtemps. Et je trouve que, bon, alors, il s'est bien renouvelé là, avec le clan, là, avec Austin Theory, Indy Hartwell et tout ça. Ça, c'est pas mal qu'ils aient fait ça parce qu'effectivement, ça a un peu relancé l'intérêt. Mais moi, j'avoue que je commence à être lassé. En plus, il gagne quasiment tous ses matchs de la même façon dorénavant. Et ça commence un petit peu à... Je trouve ça un peu usant, quoi. Donc, finalement, le truc rafraîchissant, c'est Kushida. Moi, j'irais carrément sur un truc encore plus violent, puisque moi, j'irais carrément sur une triple frite, quoi. Moi, j'irais bien sur un... Parce que sur un Loomis versus Gargano versus Kushida, moi, ça m'irait bien, un triple frite, quoi. Et ça pourrait être bien intéressant, quoi. Donc, à voir, à suivre. On parle de mecs qui sont là depuis longtemps. Bah, Tommaso Ciampa, hein. Tommaso Ciampa, il est en interview face à Timothy Thatcher en prévision de leur match la semaine prochaine dans leur Fight Pit, là. Ils sont en interview avec Wade Barrett. Voilà, bon, les deux mecs, hein, vont nous faire un truc vachement classique. Voilà, on est prêts, ils sont l'un en face de l'autre à une table. Chacun dit qu'il est prêt pour le combat de la semaine prochaine. L'autre lui dit qu'il est prêt, mais qu'il n'a jamais été aussi prêt. Et l'autre, il lui dit, mais moi, je suis encore plus prêt que toi. Voilà, hein, c'est vraiment le truc de coq, quoi. Et voilà, et à la fin, Thatcher lui dit que, bah, écoute, on va voir. Et on va voir si Ciampa, quoi, il sera encore à la hauteur ou s'il commence à perdre de sa superbe. Bah ouais, parce que Ciampa, il est là depuis tellement longtemps que bah, tous les autres, finalement, se disent bah il est prenable, le Tommaso Ciampa. Tu crois qu'il est prenable, Tommaso Ciampa, Rafa?
Bah, je crois, oui, mais le dernier gars qui a perdu dans le Fight Pit, et après, il est monté dans le main roster, donc pourquoi pas, hein. Moi, Tommaso Ciampa, c'est un gars que j'ai trouvé... Quand il était à son pic, son momentum là, de heel contre Gargano, justement, je trouvais qu'il était extraordinaire. Là, quand il est entré sans musique d'entrée, c'est un gars que j'aimerais vraiment voir, hein, dans le main roster, voir ce qu'il est capable de faire, même si ça reste un petit gabarit. Il a une intensité de catch, de regard, d'acting. Là, j'ai trouvé qu'on leur avait donné, je ne sais pas si c'est eux qui font leur texte ou pas, un très mauvais texte, honnêtement, sur ce dialogue. Franchement, c'était pourtant il le disait avec et en plus ils sont tous les deux là, ouais, ils sont méchants, ils sont vilains, il leur manque des dents, il leur manque des cheveux, ils sont comme ça. Mais tu vois, là il y a un moment là quand l'autre il lui dit oui, le lion ne prévient pas le zèbre ou je sais pas quoi, Ciampa qui dit ah ouais, tu trouves que je ressemble à un zèbre? Enfin, je trouve ça complètement naze. Et là tu dis non, tu ressembles pas à un zèbre, mais tu ressembles à un homme qui ne sait plus où il en est. Enfin, je trouve ça un peu pété, mais quand même curieux de voir l'affrontement, même si moi je suis pas un très grand fan de Timothy Thatcher. Je trouve qu'il a un catch un peu chiant parfois. Mais bon, peut-être le champ du cygne pour Ciampa, ça serait peut-être pas une mauvaise idée, hein.
Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai pas super bien adhéré à ce segment. Pareil, je suis pas super affolé par Timothy Thatcher. Ciampa, moi, je suis un peu déçu finalement qu'il monte jamais dans le main roster, mais comme apparemment il a annoncé que de toute manière, lui c'était NXT et rien d'autre, donc bon, bah, je crois qu'il faudra faire avec. C'est comme ça, on verra ce que donnera l'affrontement la semaine prochaine et on pourra en reparler à ce moment-là. Allez, on continue. Toujours, on retrouve le Dusty Rhodes Tag Team Classic, puisque là on va avoir un match entre Isaiah Scott et Jack Atlas qui font alliance pour affronter une nouvelle équipe qui débarque à NXT, en l'occurrence les MSK. Qui est une équipe qui sont en fait les anciens Rascals d'Impact Wrestling et qui font donc leur début à NXT. Ils vont avoir un match plutôt maîtrisé pour leur première face à une équipe vraiment de circonstances, puisque Atlas et Swerve Scott étaient en rivalité il y a peu de ça. On va avoir un match de 8 minutes 42 qui va surtout profiter aux petits nouveaux, hein, quoi, parce que il va y avoir finalement une résistance très faiblarde, j'ai trouvé, de la part de Isaiah Scott et Jack Atlas. Ils ne vont pas se montrer sous leur meilleur jour, je trouve, quoi. Et finalement, bah, les MSK là, vont maîtriser, vont passer un Shooting Star Press, un 450 Splash. Ils sont assez... voilà, c'est des high flyers. Et finalement, avec un blockbuster, ils vont trouver la parade. 1, 2, 3, victoire des MSK pour leur entrée dans le roster de NXT, mon Rafa.
Ouais, un peu déçu du match, hein, moi, j'ai trouvé. Déjà, de base, parce que... Pareil, hein, une équipe qui débarque comme ça, en plus avec des segments vidéo avant où t'as le gros point d'interrogation, mais qui ça va bien pouvoir être? Tu dis bon, bah ils vont pas perdre, quoi. Et ça m'a mangé le suspense, et puis effectivement, ça m'a pas trop intéressé, même si ils ont l'air bien, hein, ils ont l'air sympas, j'ai curieux de voir la suite.
Ouais, des cruiserweight encore, quoi, malgré tout, quoi.
Ouais, des légers, ils ressemblent un peu. Il y en a un des deux, il fait un peu penser à Montez Ford, j'ai trouvé, mais ça y est, c'était le premier soir parce qu'il fallait commencer. C'est un peu bizarre cette truc du début là, genre peut-être qu'ils auraient dû dire équipe à déterminer, parce que MSK je comprenais pas en fait. Moi je cherchais, je me dis est-ce que c'est un code, est-ce que ça va être je m'attendais plus à ce que ça soit des gens qu'on connaissait mais sous un nouveau nom, enfin une alliance de gars qui serait, ou un retour surprise ou tout ça. En fait c'est juste des débuts, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre ce choix de les faire démarrer en annonçant leur nom d'équipe mais sans dire qui c'est les mecs. Bon, c'est pas le meilleur moment de ma soirée, j'ai trouvé.
Non, moi non plus. Moi, je t'avoue que déjà, je connaissais pas les Rascals d'Impact Wrestling, quoi. Déjà, je les connaissais pas, ces deux jeunes. J'ai trouvé le match vraiment sans plus, quoi. Ça m'a vraiment pas emballé. Isaiah Scott, je comprends plus du tout son utilisation à NXT. Et Jack Atlas, de toute façon, c'est un espèce de jobber de luxe depuis le départ. Donc, il y avait vraiment pas d'intérêt. Puis, effectivement, comme toi, pour moi, le suspense était complètement tué, quoi. On voit pas comment les mecs qui venaient d'arriver allaient perdre ce match-là. Donc vraiment, ça manquait totalement d'intérêt. Il y avait vraiment, enfin, je me suis pas mal emmerdé en fait pendant ce match, moi, pour tout dire la vérité, quoi. Donc voilà. Allez, on passe backstage où vite fait, on va nous annoncer deux nouvelles équipes pour le tournoi féminin. Donc c'est plutôt pas mal qu'on commence un peu à nous annoncer les équipes pour les filles. Ça commence à se mettre en place. Donc la prochaine équipe, ça sera Cathy Catanzaro, Madame Ricochet, et qui fera donc équipe avec Kaden Carter. Et en face, elles vont affronter Tony Storm et Mercedes Martinez. Donc, je pense que ça sent très, très chaud pour Catanzaro et Carter, là, d'entrée.
M'étonne.
Parce que Mercedes Martinez, en plus, elle a annoncé qu'elle voulait être dans la title picture individuelle chez les femmes. Donc, je pense que ça pue d'entrée pour les deux jeunettes, là. Mais bon, on verra bien pour la suite. On aura ensuite une petite vignette avec Scarlett qui va mettre en avant son danger de mari, en l'occurrence Karrion Kross. Mais ça sera pour le coup un truc très très rapide. Un petit mot là-dessus sur Karrion Kross, sur les filles.
Sur les filles, leur seul espoir c'est une dissension, puisque comme tu l'as dit, il y a les deux autres, c'est des grosses individualités, mais bon, je pense qu'elles vont se faire rouler dessus quand même probablement. Scarlett, elle a clairement cité le prince comme une cible de son mari. Donc c'est intéressant, est-ce qu'il va venir se mêler de suite à Pete Dunne et à tout ce bordel? Je ne sais pas. Mais bon, Karrion Kross, on a toujours envie de savoir ce qu'il va faire, quoi. Donc c'est...
Moi, je t'avoue que je suis pressé de le revoir sur le ring, parce que à NXT, j'ai un gros problème à NXT, c'est qu'à NXT, il n'y a plus de powerhouse. Là, tu vois, j'ai eu l'impression de regarder, tout le long du show, j'ai eu l'impression de regarder un 205 live. Mm-hmm. Il n'y avait que des cruiserweight dans cet épisode, quoi. Donc c'était assez étrange. Je t'avoue que là, moi, et tu connais mon amour pour la barbac, pour la côte de bœuf, et très franchement, cet épisode de NXT, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, on a eu cette vignette vite fait expédiée de Karrion Kross. Où en fait c'est surtout sa femme qu'on a vue. Donc moi je t'avoue que c'était assez un peu décevant pour moi, ça, ce NXT à ce niveau-là. Derrière, on va avoir l'avant-dernier match de la soirée qui va être un match qui va durer 24 secondes.
Tu m'étonnes.
C'est le retour des Chinois, et en l'occurrence le retour de Xia Li, qui va affronter pour la deuxième fois une jobbeuse, voilà, qui en 24 secondes va la démonter. Hein. De toute façon d'ailleurs, la pauvre jobbeuse, on va même pas lui donner de nom. elle aura même pas eu le temps, parce qu'elle va se prendre un gros, gros spin kick avant d'avoir pris une grosse, grosse droite. Victoire de Xia Li. Juste après le match, la personne qui est mystérieuse, là, qui est sur la rampe, elle va demander à Xia Li d'attaquer la perdante. Chose que bien évidemment, Xia Li va pas se prier deux fois pour le faire, hein, et va continuer à la tabasser bien salement. On est en train d'installer tranquillement mais sûrement Xia Li dans la division individuelle, hein, chez les filles. Hein.
Ouais, je sais que Papy nous a dit qu'il aime beaucoup ça. C'était un de ses moments préférés de cette baston du mercredi. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal quand l'entrée des catcheurs dure plus longtemps que leur match, quoi. Je veux dire, ils mettent le paquet sur cette ambiance chinoise avec de la fumée, le grand mandarin, les bâtons, les katanas, tout ce que tu veux, machin. Et puis au final, comme tu l'as dit, elle arrive, elle fout un coup de pied, elle a gagné. C'est pour moi, j'ai jamais pour le coup été un très grand fan du bouffage de jobber, que ce soit Ryback, Braun Strowman, Nia Jax ou qui tu veux. Et là, je trouvais ça dommage aussi. Alors, ça m'a fait penser au reportage animalier. Tu sais, quand la gazelle se fait bouffer par le lion, c'est jamais à la gazelle qu'on donne un prénom. C'est toujours la lionne qui a un prénom. Parce que l'autre, il ne faut pas qu'on s'attache, il ne faut pas qu'on ait de sentiments. Donc là, elle n'a pas de prénom. Hein. On va l'appeler la gazelle. Mais ouais, j'aurais préféré une minute de plus, quoi. Au moins qu'on la voit prendre un coup sur la gueule, Xia Ali, pour qu'elle s'énerve ou qu'elle se. Ouais, bon. Voilà.
Ouais. Bon, écoute, c'était vraiment un squash hyper classique, hyper rapide. Il y avait pas grand chose à en dire de plus. Non. Là, ils sont vraiment complètement dans l'installation du clan chinois, en vrai. Ouais. Hein.
C'est ça.
C'est totalement ça, quoi. Allez, voilà. Après, derrière, on aura eu encore quelques petits segments de backstage où, d'ailleurs, ça va confirmer qu'entre Isaiah Scott et Jack Atlas, ça va pas du tout, hein, parce que voilà, on les a mis en tag team. Ils ont perdu et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en grosse tension dans les vestiaires. De toute manière, quasiment je m'y attendais. C'est marrant, je sais pas pourquoi, mais pas forcément dans la suite, dans le même épisode, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une couille de toute façon entre Scott et Atlas, et ça a été le cas. Donc voilà, je sais pas si c'est le truc le plus passionnant qui se passe à NXT, loin de là. Allez, on arrive quasi au bout. On est dans notre main event qui va donc être un match toujours pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic qui va voir s'affronter l'Undisputed Era face au Breeze & Go, qui sont de retour, hein, les Breeze & Go, hein, qui commencent à être de plus en plus présents là, ces derniers temps. Là. On va avoir un main event de 2020, où là, on va avoir vraiment du grand, grand classique, hein, de l'Undisputed Era, comme de Breeze & Go, j'ai envie de dire. Là, vraiment, là, si vous les connaissez bien, là, vous avez dû retrouver à peu près toutes les offensives de la part des deux équipes. Les Breeze & Go vont bien se défendre, hein, parce qu'ils sont pas les favoris à mon avis, hein, sur le départ de match. D'ailleurs, c'est bien souligné par Wade Barrett d'entrée. Adam Cole évidemment va avoir le dernier mot avec un super kick un petit peu foiré à mon goût d'ailleurs sur Fandango. Derrière, c'est surtout finalement derrière, voilà, l'Undisputed Era va battre Breeze & Go, va donc se qualifier pour la suite du tournoi, mais c'est surtout le post-match qui va compter. Puisque derrière, Pete Dunne et ses potes vont intervenir pour attaquer Kyle O'Reilly qui était dans les parages. Finn Balor va venir tenter de faire le sauvetage, sauf que Pete Dunne, lui, il n'en a rien à foutre, il tabasse tout ce qui bouge, donc il va s'en prendre à Kyle O'Reilly, il va se prendre le genou de Pete Dunne en plein dans sa fameuse mâchoire bien bien abîmée, et du coup ça va nous terminer le show avec l'Undisputed Era qui est en train de prendre soin de Kyle O'Reilly, qui est en train de saigner, pendant que le brand est en train de prendre la pause devant l'écran. Donc, sans trop de surprises, victoire d'Undisputed Era, mais Pete Dunne, eh ben là, il est en train de faire un gros impact sur NXT. Hein, et je pense que ça te fait plaisir, Raphaël.
Ouais, j'ai une question, parce que je me souviens déjà plus. C'est The Brand, ils y sont là dans les poules du tournoi?
Là, tu es en train de me poser une colle. Aïe. J'oublie. Il me semble que non. Il me semble que non.
Mais moi aussi, il me semble que non, ce qui est presque un peu dommage niveau scénarisation de l'histoire. Mais sinon, t'as bien décrit, hein, le match assez classique. Un peu étonnant qu'il arrive si tôt, j'ai trouvé, dans la poule. Parce que Breeze & Go, qui sont quand même des anciens champions et une équipe plutôt populaire, ils sont tombés de suite, hein, voilà, au même niveau que les autres. On a noté le dos de Tyler Breeze qui avait des sortes d'hématomes un peu bizarres, on n'a pas trop compris ce que c'était. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, moi je suis un peu. Pour moi, Undisputed Era en équipe, c'est vrai que c'était plutôt les autres. Hein. C'était plutôt O'Reilly et Bobby Fish en général. Et c'est vrai que du coup, le Adam Cole me paraît une telle individualité forte, c'est quand même le plus long champion de l'histoire de NXT. Hein. Que le voir en individualité contre ou Tyler Breeze ou Fandango, il est quand même largement supérieur, quoi. Enfin, dans le gimmick et dans le positionnement, il est plus haut. Donc il n'y a pas trop de suspense. Par contre, derrière, tu l'as décrit, Kelly O'Reilly il prend très cher et puis Dunne il se place bien, ouais.
Alors, je crois que Bobby Fish est blessé pour la 776e fois de sa carrière. Donc c'est aussi pour ça, et du coup on a un peu rétrogradé finalement Adam Cole en tag team, et parce que c'est Kyle O'Reilly qui quand même depuis 2-3 mois là est vraiment mis en avant en termes individuels. Ouais en solo là, et du coup voilà, donc il vient filer un coup de main à la team, mais bon, je sais pas si t'as eu cette sensation, mais moi je voyais pas, non, un peu comme les matchs précédents en fait dans les tag team là, je voyais pas une autre issue que la victoire des Undisputed Era.
À part ce qui s'est passé en fait, parce qu'ils sont ils sont arrivés tôt, ils sont arrivés en plein match, en fait, les méchants, là, les Pete Dunne et tout ça. Donc, à moins de... Je me suis dit, tiens, il va y avoir le coup classique. Adam Cole, il va tourner la tête. Il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre un coup. Et je me suis dit, peut-être. Mais sinon, sur le... On va dire, sur le positionnement des deux équipes, oui, c'était assez évident.
Voilà, ainsi s'achève ce NXT. Ainsi s'achève la review des deux shows, cette baston. Ouais. On va donc arriver sur le vote fatidique et on va commencer par le vote de l'inexcusable papy qui nous aura abandonné lâchement, qui a voulu éviter les mauvais coups et qui a été splanqué dans un placard. Et il en a profité pour nous laisser son avis et son vote, que donc je vais vous citer avec bonheur, l'avis du papy. La baston de cette semaine. Quel ennui ! NXT, des matchs tag team sans saveur. Notre dessinateur préféré qui n'en finit pas de servir à rien et le haut de la carte sans intérêt. Bam ! AEW, symptômes similaires, ça parle pour rien. Des inconnus se battent contre le champion du monde comme d'hab. Un segment dentiste complètement foiré. Bref, j'ai quasi rien suivi, rien compris et j'ai pas le sentiment d'avoir raté quoi que ce soit d'important. Wouh ! Génial, Aurélie a mal à la mâchoire. Youhou, Sting intervient en main event. Non mais on s'en fout, sérieux, mais seul moment d'intérêt, l'univers de Xayali et la musique de Jungle Ball. Ah oui, parce que on a oublié de le signaler, Jungle Ball dorénavant rentre sur la musique de oh, 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 oh. Bon, je le fais très mal. Et son vote au papy, qu'on va prendre en compte, hein, mes amis.
Et oui.
Son vote, ça sera un match nul, mais alors vraiment bien bien nul. Dixit, le papy. Et maintenant, nous passons au vote du Rafa. Give me a hell yeah!
Bah écoute, je suis très déçu que Papy n'ait pas été avec nous parce que j'ai l'impression que c'était lui qui avait le plus de choses à dire. Non? Mais ça aurait été intéressant qu'il soit là, le pauvre Papy, parce que j'ai pas le même sentiment. Hein. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à deux shows exceptionnels, mais de là à dire nul, vraiment nul, je suis pas d'accord. J'ai trouvé des trucs sympas dans les deux shows. Bon, on a déjà fait une longue analyse derrière nous, donc vous avez mon avis et je vais pas revenir. Moi, cette semaine-là, écoute, je vais donner la victoire à la AEW pour prouver que quand même, voilà, je fais honneur parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé certains passages, notamment Pac, effectivement, qui a été une satisfaction. Les trucs avec, si j'ai bien aimé, moi, Gallows, Anderson, le bordel avec John Moxley, tout ça, les Young Bucks. Bon, un peu plus de réserve sur Main Event, comme j'ai expliqué. Pour le coup, s'il fallait juger les Main Event, j'ai préféré celui de NXT. Ça, j'ai préféré, j'aime bien Breezango, moi je le trouve assez rigolo, sympathique, j'aime bien le Dispute d'Era. Je suis d'accord que, au niveau où on en est là des poules, au huitième de finale, le Dusty Rhodes, ça reste un peu encore... bon, on va épurer vite ces matchs-là, je pense. On va vite arriver au quart et au demi, ça sera plus intéressant. Mais de là à dire que c'était nul, papy, je te trouve bien sévère. Et ben toi, tonton, qu'est-ce que t'en penses ? Maintenant, c'est ton vote qui compte, là.
Et ouais, c'est mon vote qui compte. Et ben écoute, moi, je suis moins sévère aussi que le papy. J'ai trouvé les deux shows plutôt intéressants. Il y avait des choses assez faibles. C'était loin d'être les deux meilleurs shows que aient pu nous proposer les deux brands ces derniers mois. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Mais il y avait pas mal de choses intéressantes. Mais j'ai trouvé ça assez équivalent finalement dans les deux, quoi. Si j'avais donné des notes, j'aurais donné à peu près la même note aux deux. Donc moi, je vais donner un match nul. Et du coup, grâce au vote de notre ami Raphaël, c'est donc la All Elite Wrestling qui va remporter cette baston du mercredi du 13 janvier 2021. Hashtag 18e édition, victoire de la All Elite Wrestling, ce qui nous donne tout de même un match nul dans cette deuxième saison, puisque dorénavant, nous sommes à une victoire pour NXT, une victoire pour la All Elite Wrestling. Bon, Raphaël, t'auras pas de voyage pour rien.
Ah ben c'est pas une victoire à l'unanimité en tout cas. Hein. On peut pas dire le contraire.
Ah ouais, mais c'est un peu le concept de la baston du mercredi, quoi, de toute façon. Quoi. C'est toujours compliqué.
Mais très bien. Ben oui, écoute, ben voilà, ma voix est minorité.
Enfin, ta voix fait majorité au final.
Oui, voilà.
Et finalement, et en plus, ta voix rejoint le public. Mm-hmm. Parce que dans les ratings, eh bien, AEW aura gagné largement, puisque, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais. Je crois que la AEW a fait dans les environs de 750 000 ou 730 000, Alors que par contre, pour la NXT, ça a été très compliqué puisque la NXT n'a fait que 551 000 spectateurs, qui est dans leur top 3 de leur plus mauvaise audience depuis que NXT passe à la télé. Donc vraiment, ah oui. Là, la Elite Wrestling aura gagné largement la bataille des ratings. Et finalement, ben, tu vois, ça se retrouve sur notre vote final et c'est donc la Elite Wrestling qui remporte la mise. Voilà les amis, la suite au prochain numéro pour la baston du mercredi. Pour savoir tout ce qui se passe à la WWE et ailleurs, vous savez où nous trouver ou pas. Et bah, c'est pour ça que je vais vous le dire. Déjà, vous pouvez retrouver la communauté Catch-Up sur le Discord. N'hésitez pas à venir, à donner vos avis, à venir taper la discute. Les chroniqueurs sont là et échangent avec vous. Bien évidemment, le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Bien évidemment, sur YouTube. Actionnez la cloche, laissez des commentaires pour le référencement, mettez des pouces et vous verrez d'ailleurs dans les commentaires si vous posez un commentaire sous YouTube, on n'hésitera pas à venir vous répondre directement. Et puis bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, venez écouter Catch Up, ça fait toujours du bien. En ligne, vous avez déjà la review de Monday Night Raw, à suivre cette semaine la review de SmackDown. Là, je crois qu'on a fait le tour. Mon bon Raphaël, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans cette review de la baston du mercredi.
Ben, merci à toi, tonton, et bravo pour cet hosting de passion et de qualité.
J'espère bien. Eh ben voilà, les amis, on vous laisse là-dessus. On vous rappelle juste les ratings. On en est donc au général à 8 victoires pour la AEW, 7 victoires pour NXT, 3 matchs nuls. Et dans notre deuxième saison, on en est à un match nul puisqu'on est à une victoire partout entre les deux brands. On vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mon Rafa, give me a hell yeah.
Salut mon tonton, salut à tous. Salut peuple de catch-up.
Yeah! Salut peuple de catch-up.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT! War Games!
What? Je me frappe penser à ce qu'on envoie une lettre de licenciement à l'ingénieur son.
On va écrire.